Le siège fonctionne. Il va s'en tirer, les gars. Je vous dis qu'il s'en sort. » Debout, à 6 heures, après une nuit sans sommeil, maman se sentait lourde et menacée. Elle téléphonerait à son médecin avant midi. Elle fit cependant une toilette complète et n'oublia pas la goutte de parfum derrière l'oreille pour chasser les mauvaises odeurs de la vieillesse. Elle réveilla Michou à 7h05 et s'en alla dans la cuisine moudre du café parce qu'elle avait remarqué la veille au soir qu'il n'y en aurait pas assez pour remplir 3 bols. Elle rectifia 2 en se rappelant que Jean n'était pas rentré de la nuit. Elle croyait que c'était pour ça qu'elle n'avait pas pu dormir. À 7h20, Michou entra dans la cuisine. Elle lui demanda s'il savait ses leçons. Il faut continuer de vivre comme si rien n'était. Tandis qu'elle pensait cela, Michou lui répondit. Il disait que le professeur d'anglais était malade. Elle n'entendit pas et ne lui fit pas répéter. À 8 heures, Michou partit pour le lycée, elle fut seule. Extraordinairement, elle ne s'impatientait pas. Elle pensait à longs intervalles, un mot de ci, de là, Jean, Michou, Georges, surtout des noms de personnes. Il lui semblait ne plus avoir de prise sur le temps. Elle s'habilla pour sortir. Ce soir, des voisins diront « C'est-il pas Dieu possible ? On l'a vu pas plus tard que ce matin sur son grand tralala. » Elle allait acheter un journal chez la mercière qui vendait la République à 2 rues de sa maison. Le journal lui apprit que Michel Galard avait cassé une chaise sur la tête de sa femme et que Françoise était à l'hôpital. « Aux dernières nouvelles, écrivait le rédacteur, l'état de la victime est désespéré. À minuit, les médecins pensaient qu'elle ne passerait pas la nuit. » Maman ne lut cet article de retour dans sa chambre que revêtue de sa blouse, manteau et chapeau rangés dans l'armoire. Ayant lu, elle retira les lunettes et pensa que c'était effrayant de vieillir. Elle lutta une demi-heure contre la tentation d'appeler l'hôpital. À 9h10, elle téléphona. Une voix d'homme lui répondit, puis une voix de femme. On alla chercher l'infirmière en chef. L'infirmière en chef dit qu'on ne pouvait rien dire. Le médecin était en ce moment même auprès de Madame Galard. « Tant qu'il y a de la vie, dit maman, il y a de l'espoir. »« Oui, dit l'infirmière en chef. »« Je rappellerai, dit maman. Vous comprenez, je suis une vieille amie. » Mais l'infirmière en chef avait coupé. Maman résolut de nettoyer son argenterie. Elle avait sorti les couverts du buffet de la salle à manger et elle les transportait dans la cuisine quand la pensée de son sac à main la tourmenta. Elle se demanda si elle ne l'avait pas laissé chez la mercière. Elle ne le retrouva en effet ni dans sa chambre, ni sur la barre du porte-manteau où elle l'oubliait quelquefois. Il lui fallut un certain temps pour se rappeler qu'elle ne l'avait pas emporté chez la mercière. Elle y avait seulement pris une pièce de 20 francs. Il était demeuré ouvert sur la table de la cuisine. Elle le regardait quand le téléphone sonna de nouveau. Elle pensa « de nouveau » absurdement, comme si l'hôpital eût pu la rappeler sans même connaître son nom et son adresse. La pendule du buffet indiquait 10 heures. Maman se mit à trembler. En décrochant l'appareil dans le bureau de Jean, elle se disait « une heure ne s'est pas écoulée, ce n'est pas possible. » On demandait Madame Benoiston. C'est moi. On s'excusait. On téléphonait de Paris de la part d'un grand quotidien. On préparait un reportage sur les pilotes d'essai. On ne pouvait mieux faire que s'adressait à la femme de Jean Benoiston. « Je ne suis pas, » dit maman. C'était une vie aussi terrible pour les femmes des pilotes d'essai que pour les pilotes d'essai eux-mêmes. Ce devait être une terrible vie. On désirait savoir comment accueillerait-elle l'annonce d'un accident survenu à son mari, d'un très grave accident, d'un accident qui aurait pu... Pourquoi ? Pourquoi me demandez-vous ? On ne répondit pas. Ou peut-être, on répondit, et peut-être encore, maman n'avait-elle pas demandé pourquoi ? Maman n'entendait plus parce qu'elle parlait. Mais elle ne parlait pas dans le téléphone. Elle disait dans sa tête que ce n'était pas possible, qu'une heure ne s'était pas écoulée. Cette heure pas écoulée prenait ses pensées, mangeait son cerveau. L'heure qui ne s'écoule plus, l'heure stagnante, car le temps peut se figer ainsi, et il n'y aurait plus rien à faire, non, mon Dieu, non, plutôt la mort. À l'autre bout du fil, on s'excusait, on était désolé, il y avait eu, oui, un accident, mais ce n'était pas un accident, tout permettait d'espérer, ce n'était qu'un accident. Le récepteur glissa dans la main de maman. Cette sensation d'une chose noire et lisse qu'elle ne pouvait retenir fut la dernière que sa main droite lui donna. Le récepteur heurta son socle et rebondit. En raison de l'absence du professeur d'anglais, Michou, ce matin-là, quitta le lycée à 10 heures. Il y avait gymnastique de 10 à 11, mais Michou n'aimait pas la gymnastique. Il préféra s'imposer la corvée de demander au surveillant général la permission de rentrer chez lui. Il dit qu'il était souffrant, il se plaignit de maux de tête, et le surveillant le vit si pâle qu'il le crut. Michou courut tout le long du chemin. Il ne souffrait pas de maux de tête, mais il était inquiet. Il fallait qu'il sache pour la dame. Et pour maman aussi. Elle lui avait paru toute drôle avant qu'il parte au lycée. Il craignait, pour quoi que ce fût, d'arriver trop tard. La porte d'entrée était fermée. Il sonna 7 ou 8 fois, puis il fit le tour de la maison et se glissa par la fenêtre de la cave qu'on ouvrait de l'extérieur en poussant de toutes ses forces. Il traversa dans le noir la petite pièce au charbon en trébuchant sur des boulets qui avaient roulé sur le sol. Il n'y avait personne dans la cuisine, simplement des fourchettes et des cuillères en argent sur la table et le sac à main de maman oublié là. Il joua avec le fermoir et attendit. Il n'avait plus peur. Cette quiétude dura quelques minutes. Il ouvrait et fermait le sac, un grand sac à l'ancienne mode, que divisaient 3 cloisonnages bourrés de papiers de toutes sortes. Dans le premier compartiment, on pouvait voir des carnets et des livrets, dans le second, de l'argent, pièces de monnaie, billets, pliés en 4, dans le troisième encore des papiers et 2 petits paquets bizarres que Michou sortit du sac pour les regarder de plus près. 2 papiers quadrillés, comme celui qu'il employait, pliés en 6 ou 8. Il portait inscrit l'un « corde de pendu », l'autre « queue de lézard ». Michou eut un sourire. Alors il s'inquiéta, remit les paquets en place et sortit dans le couloir, le sac tournoyant, à bout de bras. Il monta au premier étage en criant « Maman, tu es là ?» Il jeta un regard dans la salle de jeu. Personne. Il frappa à la porte de maman, l'ouvrit. Personne. Elle était allongée dans le bureau de papa. Allongée de tout son long, la tête droite posée contre un pied de bureau, comme une tête cassée. Michou laissa tomber le sac et s'élança. Il aurait voulu soulever le corps, mais le corps était trop lourd. Maman respirait très fort, les yeux fermés, la main gauche agitée de petits soubresauts, la main droite immobile. Elle ne se ressemblait plus. Elle ressemblait à un pantin brisé avec une tête en bois, à une racine d'arbre sur le bord du chemin qui aurait ressemblé vaguement à une femme. Michou fut soulagé. Il valait mieux qu'elle ne fût plus la même. Les gens, quand ils ne sont plus les mêmes, ils ne meurent pas. Michou regarda autour de lui tous les objets. Il ne les avait jamais vus. Le bois clair du bureau avait été un arbre. Le sous-main, couvert de buvards superposés, une vache peut-être dans un champ. Et le récepteur, au bout de son fil, immobile comme maman par terre. Michou l'ignorait. Il reposa le récepteur sur son socle et vit le sac par terre aussi, ouvert. Il le ramassa. Il savait ce qu'il devait faire. Téléphoner tout de suite pour qu'on prévienne papa et que papa vienne. Mais où téléphoner? Il regarda le sac. Maman avait noté le numéro quelque part. Entre les deux paquets, de la corde de pendu et des queues de lézard, il y en avait un troisième, plus gros, attaché par un élastique. L'élastique fit briller les yeux de Michou. Il le tendit, l'arracha du paquet et l'enroula autour de deux de ses doigts. Lorsqu'il remuait les doigts, on aurait dit deux bonshommes attachés ensemble. Mais c'était difficile parce qu'en même temps, il devait tenir le sac et le paquet, constitué de papier, des lettres. L'une d'elles tomba sur le plancher. Michou posa les autres et le sac sur le rebord du bureau pour ramasser celle-là. Alors, il lut la signature. Irène. Et la lettre disait « Chère madame, je vous demande pardon pour mes insolences. Je vous remercie de vouloir bien garder mon petit Michel un peu de temps encore. Actuellement, je serai incapable en effet de l'élever comme il faut. Mais je veux espérer que dans quelques mois, ma situation se sera améliorée et que je pourrai à nouveau m'occuper de lui, je veux dire me rapprocher de vous, car je ne pourrai jamais vous reprendre tout à fait un enfant que vous avez élevé. Vous ne m'aimez pas beaucoup, je le sais, mais, devant la mort, je crois que toutes les rancunes doivent s'oublier dans cet amour commun que nous portons à mon fils. » Cette dernière phrase était mal écrite. Elle arrêta Michou, le O de Porton, le M et le N de Mon semblaient une écriture différente. Michou regarda ses corrections sans les comprendre, mais bien qu'il ne comprît pas, une singulière piqûre de souffrance traversa soudain la brume de peine accumulée en lui depuis la veille. « Maman m'aimait bien, » pensa-t-il, et il ne voulait pas dire grand-mère. Mais il eût pleuré si le corps de grand-mère ne s'était trouvé là entre ses pieds et les pieds du bureau. L'horreur de ce corps étendu, inerte, asséchait ses yeux. Il se pencha sur le corps, la lettre de sa mère à la main. Tout à l'heure, les deux yeux étaient fermés. Maintenant, l'œil gauche s'ouvrait tout grand. L'œil semblait regarder la lettre d'Irène dans la main de Michou et implorait. Michou voudrait que papa soit là. Il voudrait que tout le monde soit là, qu'on vienne. Puis, il pense que c'est mal d'avoir fouillé dans le sac de grand-mère. Il a honte. Il remet la lettre d'Irène sur le paquet et cherche l'élastique qui n'entoure plus ses doigts. L'élastique est tombé par terre. Il n'ose pas se pencher pour voir de peur d'approcher son visage du corps de grand-mère étendu. Il enfonce les lettres dans le sac sans élastique et s'approche du bureau. Alors, il se souvient du numéro de papa. L'œil s'est refermé et il en est heureux. Grand-mère respire de plus en plus fort. Il ne peut rien pour elle, mais on va venir, on va la soigner, la guérir. On va être heureux tous ensemble. Papa l'a dit, je veux que Michou ait une enfance heureuse. Une enfance? Non. Décrochant le téléphone, son premier geste d'homme, il savait que bientôt, le temps allait venir de répondre au sourire des filles et de travailler pour de bon. Lorsqu'il eut demandé qu'on aille chercher son père, tandis qu'il attendait qu'on allât le chercher, des myriades d'étoiles, les rêveries de son jeune âge remontaient à toute allure au paradis de l'enfance, là-haut, derrière les nuages de l'oubli. Fin du roman.